Radio Kapi. Le journal Noël Alouzi Toukabambi à la présentation.
Un dialogue national pour résoudre la crise que traverse le pays. L'UDPS s'oppose à cette idée émise par les églises catholiques et protestantes dans une déclaration hier à Kinshasa. Le parti au pouvoir réaffirme son soutien au processus de Luanda et de Nairobi comme seul cadre légitime pour résoudre le conflit dans l'est de la RDC. Pour cette année 2025, la RDC est à nouveau éligible à la loi américaine sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique, AGOA. L'ambassadrice des États-Unis à RDC, Lucie Tamlin, l'a annoncé hier lors de sa rencontre avec le ministre congolais du Commerce extérieur, Julien Paluku. Les opérateurs économiques congolais peuvent exporter leurs produits vers les États-Unis d'Amérique sans frais de douane. Le professeur Muhesi Kaindo, analyste politique congolais, est l'invité de Radio Okapi ce matin. Il va réagir à la déclaration finale du sommet conjoint SADC-EAC. Sommet tenu le week-end dernier à Dar es Salaam en Tanzanie. Bonjour à tous. L'UDPS s'oppose au dialogue initié par les églises catholiques et protestantes. L'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi dénonce et rejette catégoriquement cette initiative de la CINCO-ECC visant à organiser un dialogue national pour résoudre la crise que traverse le pays. Dans une déclaration politique publiée hier mardi à Kinshasa et signée par son président intérimaire, Augustin Kabuya, le parti au pouvoir réaffirme son soutien au processus de Luanda et de Nairobi comme seul cadre légitime pour résoudre le conflit en cours. L'UDPS souligne son soutien au processus de Luanda pour une résolution diplomatique des tensions avec le Rwanda et encourage la poursuite du processus de Nairobi afin d'engager les discussions avec les groupes armés congolais. Le parti au pouvoir appelle également le Conseil de sécurité des Nations Unies à prendre des sanctions appropriées contre le président Paul Kagame et d'autres dirigeants rwandais impliqués dans la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. D'autres détails avec vous, Grâce Amzati.
Dans sa déclaration, l'UDPS Tshisekedi rappelle que le M23 AFC, en tant que groupe armé, peut être intégré au processus de Nairobi, à l'instar d'autres groupes armés congolais, mais qu'il ne saurait y avoir des négociations directes entre le gouvernement et cette rébellion soutenue par le Rwanda. Tout en prônant la cohésion nationale, le parti au pouvoir rejette toute initiative visant à organiser un dialogue politique en dehors des cadres institutionnels existants. Ces partis politiques dénoncent par ailleurs l'attitude de certains acteurs religieux qui l'accusent d'adopter une posture hostile aux institutions de la République. Insistant sur le caractère laïque de l'État congolais, l'UDPS Tshisekedi estime que l'Église ne devrait pas s'immixer dans les initiatives politiques qui relèvent des prérogatives des autorités légalement établies. Enfin, le parti présidentiel appelle les responsables des différentes confessions religieuses en RDC à prêcher des messages de paix et de cohésion nationale dans leurs homélies, tout en respectant les institutions du pays. Convaincu de l'issue favorable de la situation actuelle, l'UDPS réaffirme sa confiance à la capacité de la RDC à préserver son intégrité territoriale et à triompher de cette guerre, peut-on lire dans la déclaration.
Une organisation de la société civile s'oppose aussi à la démarche des catholiques et des protestants. Il s'agit de l'Observatoire de la dépense publique, ODEP. Dans un communiqué publié hier, l'ODEP rapporte qu'aucun dialogue ne se tiendra en RDC avec le président rwandais et ses supplétifs alliés. Le compte rendu de ce communiqué avec Blaise Ndongala Mayanda.
Dans ses communiqués signés par son président du conseil d'administration, l'Observatoire de la dépense publique a lancé un appel à la résistance patriotique, à un sursaut national et à une alliance stratégique entre la société civile résolument engagée avec les peuples révoltés, tant en RDC qu'à travers la diaspora. Ensemble, estime professeur Florimond Mouteba, les Congolais ont intérêt à briser toutes les fausses divisions qui continuent de les éloigner et à s'unir dans cette lutte commune. Il est également d'avis que cette alliance représente un défi majeur et demeure la seule voie viable pour expulser les agresseurs du territoire national et concrétiser la riposte tant entendue contre les forces rwandaises, notamment au Nord Kivu. Dans sa démarche, ces scientifiques disent bénéficier du soutien et de l'encouragement des forces citoyennes progressistes, de la société civile ainsi que de l'ensemble du peuple congolais. Dans cette note, professeur Florimond Mouteba encourage également les forces vives de la nation ainsi que les forces de défense et sécurité à assumer la responsabilité de la résistance.
Comme vous le savez sans doute, le gouverneur militaire du Nord Kivu a demandé aux institutions provinciales d'être provisoirement délocalisées dans la ville de Beni. Mais des milliers d'agents et cadres de l'administration publique sont toujours coincés dans la ville de Goma. Les membres de l'intersyndicale des travailleurs du Nord Kivu parlent d'un manque de moyens et des mesures d'accompagnement de cette disposition. Bernard Danyangi.
Seuls certains cadres du gouvernement provincial et quelques agents des divisions sont déjà arrivés à Beni, alors qu'ils se comptent par milliers les agents et cadres de l'administration publique qui sont bloqués à Goma. Un membre de l'intersyndicale des travailleurs de l'État qui a préféré s'exprimer sous anonymat évoque le manque de moyens pour rejoindre Beni. Celui-ci estime que cette décision est plus politique.
C'est une mesure peut-être beaucoup plus politique que sociale, parce que délocaliser les agents, il faudra donner les moyens, mais surtout la structure d'accueil. Où est-ce que les agents seront logés à Beni avec leur département? D'abord, il y a les arriérés de salaire. Nous ne sommes pas payés depuis quelques mois. Et puis, même si on peut envoyer l'argent, aujourd'hui, les banques sont fermées.
Signé le 1er février et rendu public le 7 février dernier, cette note de service demande aux institutions publiques et leurs partenaires de se délocaliser à Beni, devenu le chef-lieu provisoire de la province après l'occupation de Goma par les rebelles du M23 soutenu par le Rwanda. Le nouveau gouverneur militaire, le général-major Somo Evariste Kakule, s'est lui-même installé dans la ville de Beni après sa prise de fonction le 31 janvier 2025.
Toujours en rapport avec la guerre dans l'est du pays, Jean-Pierre Bemba s'est rendu au Maniema. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, sensibilise la population de cette province à s'enrôler massivement dans l'armée congolaise, les FRDC. Arrivé lundi à Kindu, il a tenu le même jour un meeting à la tribune centrale pour transmettre un message du chef de l'État. Florence Kizalunga revient sur l'adresse de Jean-Pierre Bemba.
Ovationné par la population de l'aéroport à la tribune centrale de Kindu, la population dont la plupart avec un bandeau rouge à la main et à la tête pour protester contre l'agression rwandaise ainsi pour manifester leur colère contre tout ce qui se passe à l'est. Du haut de la tribune, Jean-Pierre Bemba Gombo, s'exprimant en lingala, appelle les jeunes à partir de 18 ans d'intégrer l'armée congolaise pour barrer la route à ce qu'il appelle les ennemis du Congo. Ces membres du gouvernement n'ont pas manqué d'adresser un message de paix et de solidarité à l'endroit des Maïmaï se trouvant au Maniema et de toute la population et les politiciens à l'unité afin de parler le même langage pour l'intérêt suprême du Congo et des Congolais derrière la vision du chef de l'État. Espérant une suite favorable, Jean-Pierre Bemba a également lancé un message d'apaisement à la population se trouvant dans les territoires occupés par la rébellion. Le patron du transport a regagné Kinshasa le même lundi 10 février. Kindu. Florence Kizalunga, Radio Kapi.
En plus bref, au sud Kivu, des violents affrontements sont signalés autour du centre de Calais depuis lundi soir entre les FRDC associés au Wazalendo et le M23 appuyé par l'armée rwandaise. Le village Mouagwere, à environ un kilomètre de Iousi, est l'épicentre des combats. Des bombes ont percé des toitures des maisons d'habitation, provoquant la débandade parmi les habitants. Nos sources sur place ont confirmé l'information sans donner des précisions sur les dégâts humains parmi la population civile ni du côté des belligérants. Calais, centre chef-lieu du territoire du même nom, se trouve à moins de 50 km de l'aéroport de Kavumu, au nord de la ville de Bukavu. L'Association nationale des victimes du Congo basée au Kasaï central se dit, elle, prête à collaborer avec la mission d'enquête des Nations unies sur les crimes et exactions commises dans l'est de la RDC. D'après son président, l'ANVC se documente régulièrement et est disposée à fournir les éléments d'information à cette équipe attendue dans un avenir proche. Mirante Moulumba indique que les victimes des atrocités de l'est, particulièrement au nord Kivu, ont besoin de réparation et de justice. On l'écoute.
Aujourd'hui, nous sommes prêts pour devoir fournir tous les éléments informationnels utiles à la dite commission, dans l'espoir que la dite commission puisse y tirer les conséquences le cas échéant. Donc, pour notre part, nous trouvons que l'humanité ne doit pas fonctionner de manière plus déshumanisante. Donc, les rassonner pour que cette commission fasse un travail de fond, mais elle seule ne saura pas. Voilà pourquoi l'ANVC se pointe pour fournir tous les éléments qu'il faille, dans l'espoir que, le cas échéant, que les conclusions soient tirées et les responsabilités soient bien établies pour que plus rien ne soit pas comme avant. Aujourd'hui, l'ANVC travaille en collaboration avec le bureau du procureur pour lui fournir tous les éléments nécessaires. Tout celui qui se serait impliqué à des degrés divers pour semer désolation dans la partie orientale de notre pays doit répondre. Je crois que ce sera la bonne justice internationale. Donc c'est de cette manière-là que nous devons rebâtir une nation plus humaniste.
Notons que les 47 États membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU réunis à Genève ont accepté d'initier une enquête sur les exactions commises dans l'est de la RDC en proie au combat mené par le M23 avec l'appui de l'armée rwandaise. Et puis cette nouvelle qui va certainement plaire à ceux qui aiment les réseaux sociaux, les plateformes numériques TikTok et X sont de nouveau accessibles à Kinshasa après plusieurs jours de restrictions. De nombreux utilisateurs l'ont constaté avec soulagement, mettant ainsi un terme à un blocage qui avait suscité des vives interrogations au sein de l'opinion publique congolaise. Le ministre de la Communication et Médias demande aux Congolais d'utiliser les réseaux sociaux pour défendre la patrie. Plus de détails avec vous, Yvine Bwinga.
L'attente a été certainement longue auprès des utilisateurs de TikTok et Contix après cette mesure de restriction. Les voix se sont élevées pour fustiger cette décision du gouvernement durant cette période de limitation, période pendant laquelle de nombreux internautes ainsi que des organisations de défense des libertés numériques avaient exprimé leurs préoccupations. Certains utilisateurs avaient contourné cette mesure en ayant recours à des réseaux privés virtuels, illustrant ainsi l'importance de ces plateformes dans la vie quotidienne des Congolais. Pour le ministre de la Communication et Médias, il est important que les Congolais usent de ces réseaux pour défendre la patrie en dénonçant les mouvements suspects en cette période où le pays fait face à la guerre. Patrick Muyaya.
Depuis des mois ici, qu'il y a le poison rwandais qui se distille dans nos téléphones. Le poison dont on parle ici, c'est le poison du mensonge. Il faut utiliser vos réseaux sociaux, y compris pour défendre la patrie. Il faut utiliser vos réseaux sociaux pour dénoncer. Si vous voyez un numéro propager du poison rwandais, de la manipulation, il faut les dénoncer.
Avec cette levée des restrictions, des Kinois peuvent désormais reprendre librement leurs échanges sur TikTok et X, des espaces devenus incontournables pour l'actualité, le divertissement et les débats sociopolitiques.
La République démocratique du Congo, de nouveau éligible à la loi américaine sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique, à Goa, pour l'année 2025. Cette décision a été communiquée au gouvernement congolais hier mardi à Kinshasa par l'ambassadrice des États-Unis en RDC, Lucie Tamlin, au cours de sa rencontre avec le ministre congolais du Commerce extérieur, Julien Paluku. Les opérateurs économiques congolais peuvent ainsi exporter leurs produits vers les États-Unis d'Amérique sans payer des frais de douane. Grâce à Mzati.
Cette décision de l'administration Trump intervient après examen de l'éligibilité de la RDC à cette loi américaine, une loi qui permet aux pays d'Afrique subsaharienne éligibles d'exporter la plupart de leurs produits aux États-Unis d'Amérique sans droit de douane et sans obligation de réciprocité. Dans ces documents remis au ministre congolais du Commerce extérieur, les États-Unis d'Amérique saluent les progrès réalisés par la RDC pour renforcer l'état des droits et les réformes économiques, ainsi que le recrutement des inspecteurs du travail pour protéger les droits des travailleurs. Cependant, le gouvernement américain appelle à la poursuite des mesures de protection des droits humains et la lutte contre l'impunité en RDC. Pour le ministre congolais du Commerce extérieur, c'est une bonne nouvelle pour les opérateurs économiques congolais. Ainsi, Julien Paluku encourage les patronats congolais à saisir cette opportunité offerte par les États-Unis d'Amérique pour cette année 2025.
Actualité internationale.
L'Ouganda a confirmé 9 cas de virus Ebola Soudan contre 3 auparavant, selon le ministère de la Santé de ce pays. Ce ministère avait annoncé fin janvier le début d'une épidémie d'Ebola de la souche Soudan avec le décès d'un infirmier travaillant dans un hôpital de la capitale. Un total de 265 contacts ont été placés en isolation dans des hôpitaux de Kampala et de Mbale, une ville de l'est du pays. La transmission humaine d'Ebola se fait par les fluides corporels avec pour principaux symptômes des fièvres, vomissements, saignements et diarrhées. Les personnes infectées ne deviennent contagieuses qu'après l'apparition des symptômes après une période d'incubation allant de 2 à 21 jours. Toutes souches confondues, ce virus a fait plus de 15 000 morts en Afrique depuis 1976.
L'invité.
Le professeur Muhesi Kaindo, analyste politique congolais, estime que le cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, mais aussi la reprise et la fusion des processus de Nairobi et de Luanda sont des mesures salutaires qui vont provisoirement rassurer les populations par rapport à la menace de l'avancée du M23 en RDC. Il réagit ainsi à la déclaration finale du sommet conjoint EAC-SADC qui s'est tenu ce week-end à Dar es Salaam. Le professeur Moïse Kaindo s'exprime ici dans cet entretien accordé à Sifamagoro.
Professeur Mouhessi, bonjour. Le sommet conjoint de l'EAC-SADC a réuni plusieurs chefs d'État pour parler de la crise sécuritaire à l'est de la RDC. Des recommandations ont été faites, notamment l'arrêt immédiat des hostilités. Quelle est votre analyse sur cette recommandation?
Bonjour Madame Sifa. Tu sais, le feu était une des grandes attentes d'une grande partie de la communauté internationale, parce que si nous avons bien suivi les débats au niveau du Conseil de sécurité, mais aussi dans les autres arcanes où on a discuté de la paix, à l'est de la RDC, nombreuses sont les organisations qui ont demandé à ce qu'il y ait un cessez-le-feu immédiat. Mais le problème par rapport au cessez-le-feu, il peut provisoirement rassurer les populations qui vivent dans les zones où il y a encore des affrontements, ou des zones qui sont menacées par, la progression de la rébellion du M23. Mais, comme je l'ai dit, le problème se situe au niveau du respect de ce cessez-le-feu-là. Parce que, comme vous le savez, il n'est pas le premier à avoir été décrété. Mais à chaque fois, après justement l'annonce d'un cessez-le-feu, on a constaté que les violences ou les armes ne se sont pas tues. Et donc, c'est la plus grande problématique liée, n'est-ce pas, à ce cessez-le-feu qui a été une des recommandations issues du sommet des chefs d'État qui se sont réunis à Dar es Salaam. C'est vrai, dans la déclaration, il a été dit qu'il y aurait justement de chefs d'état-major, je crois, qui devraient se réunir pour essayer d'analyser les modalités. Mais dans un contexte où les belligérants ont leur agenda, ont leur planification, il n'est pas exclu qu'en voit que ces mécanismes se réunissent, qu'on assiste, que les lignes sur les plans, sur les fronts militaires bougent des côtés comme dans un autre.
Cette rencontre des chefs d'État à Dar es Salaam a demandé de fusionner les processus de Luanda et de Nairobi. Quelle lecture faites-vous sur cette fusion?
Quant à la question de la fusion de deux processus, je crois que c'est une recommandation qui, à mon avis, vaut son pesant d'or. La question de discussion avec les groupes armés et nationaux était justement relayé à un second plan de discussion. Et il n'était pas impossible qu'il y ait justement divergence, qu'il n'y ait pas rapprochement. À chaque fois qu'on a essayé de conclure, je m'avais pour preuve la rencontre qui était justement raté au mois de décembre, mais aussi les autres rencontres qui ont eu lieu à Luanda. Il était question pour justement le Rwanda de faire mention aux éventuelles discussions qui devaient concerner aussi les groupes armés nationaux, et notamment pour le Rwanda, il citait expressément les M23. Et donc, le fait de fusionner, je crois, ça peut rendre la tâche un peu plus facile.
Pour rafraîchir la mémoire de nos auditeurs, pouvez-vous nous rappeler les grandes lignes de l'accord cadre d'Addis Abeba? Pourquoi, selon vous, le sommet d'hier l'a désigné comme instrument crucial qui peut servir de point de départ ou de support pour la résolution des conflits qui ont fait couler le sang dans la région?
L'accord cadre d'Addis Abeba, c'est une initiative en fait de paix qui visait en fait le retour de la paix dans la sous-région des Grands Lacs et de manière particulière à l'est de la République démocratique du Congo. Et c'est pour ça justement que, à l'initiative de la communauté internationale, 11 pays s'étaient réunis avec justement sous l'égide de l'Union africaine, des Nations unies également, pour essayer justement d'amener ces pays à mettre sur pied un cadre qui permettrait justement la résolution ou la prise en charge des différents problèmes qui étaient considérés comme étant à la base de la conflictualité récurrente.
Merci beaucoup, professeur Mouhessi.
Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir suivi ce journal qui arrive à sa fin. Un journal présenté par Noëlla Luzitu Kabambi et mis en onde par Pierre Diassinois, coordonné et supervisé par Lievi Nombwinga. Merci de rester branchés sur Radio Okapi.
De nos auditeurs.